CFM Cahors, le mag.
Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag avec un invité exceptionnel aujourd'hui. Il est arrivé en France, il était sans papier, il a vécu comme ça, comme tel, et il a travaillé à l'hypercacher de Vincennes. Et ce mois de janvier, ce jour de janvier 2015, sa vie a basculé comme celle de beaucoup d'autres, puisqu'on était en plein dans l'attentat, et notamment sous les tirs du terroriste Koulibaly, qui est rentré dans l'hypercacher. Lassana Batili, c'est lui qui a sauvé plusieurs personne. Il est venu présenter et dédicacer son livre à la librairie Calligram, c'était samedi. Son livre s'intitule « Je ne suis pas un héros » et nous l'avons rencontré dans CFM Le Mag. Invité dans Le Mag, 9 janvier 2015, je vais vous resituer la situation. Donc à Paris, il y a Charlie Hebdo qui est attaqué et puis ensuite il y a un autre terroriste qui envahit un magasin fréquenté par des juifs parce que c'est un magasin cachère, le hyper cachère de la porte de Vincennes. Il y aura eu 4 morts, mais il y aura surtout eu des personnes qui ont été sauvées par cette personne qui s'est employée d'abord, Lassana Batili, qui dans son livre dit « Je ne suis pas un héros ». Bonjour Lassana Batili.
Bonjour.
Je ne suis pas un héros. Alors, la question que je me pose, c'est quand on fait ce genre de choses, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour être un héros?
Bon, comme je disais, peut-être que j'ai fait un acte héroïsme, mais les casquettes héros, c'est ça qui me gêne. Peut-être que c'est ma modestie de ne pas accepter d'être héros, mais comme j'ai toujours dit, je suis un bon citoyen qui a réfléchi un bon moment.
C'est pas forcément évident aussi, je veux dire, quand on lit votre livre, on va pas raconter votre passé, on va laisser les gens le découvrir dans ce livre. Vous êtes venu du Mali, oui. Sans papier. Alors déjà, pourquoi quitter le Mali pour la France?
Ouais, je suis venu, c'est une raison, parce que mon père, il a fait toute sa vie ici en France. Il est arrivé en France en 1967. Voilà, moi quand j'étais au Mali, d'abord j'avais commencé par les cours d'arabe. Mais j'ai arrêté un peu plus tôt parce que j'ai fait que 3 ans de cours d'arabe. Quand j'ai abandonné les cours d'arabe, bon, j'étais à la maison comme ça, j'ai aidé mes oncles qui étaient en place. Parce qu'ils, et ils ont au sang, ou comment ça, ils ont des jardins aussi. Souvent, j'ai aidé à apporter à manger, à boire. Un jour, mon père est venu en vacances, il me dit « Mais toi, tu fais quoi maintenant? Tu as envie de faire quoi ?» Bon, j'avais pas des idées. Il m'a dit « C'est mieux que tu viennes avec moi, comme ça, déjà, tu vas prendre la langue et puis tu vas prendre un métier aussi qui peut te permettre d'avancer dans la vie plus tard pour que tu puisses avoir une vie meilleure un peu plus tard. » Bon, c'est grâce à mon père qui m'a fait venir ici en France en 2006.
Oui, mais le parcours a été dur.
Oui.
Pendant ces années, de 2006 jusqu'à 2015, quand on lit votre parcours, ça veut dire effectivement déjà que vous étiez sans papier et ce n'était pas facile de les avoir. Comment on trouve la force justement pour vivre cette période dure? Il y a un moment où on doit se dire, il faut peut-être que je retourne au pays ou pas?
Oui, c'était très difficile à mon arrivée. Je disais, bon, de la vie, c'est une étape, je disais, bon, tous les parcours que j'ai fait du Mali jusqu'à ici, malgré la difficulté, bon, je vais avancer. Voilà, moi, je suis quelqu'un, quand je vise une chose, j'ai envie d'arriver. Voilà, je vis que c'est difficile, c'est dur. Bon, c'est vrai que malgré la difficulté, bon, il faut que je montre aussi que je suis capable. Voilà, j'ai vu difficulté des papiers au début, mais avec les associations qui m'ont aidé, l'association et RUSF, éducation et réseau éducation sans frontières qui m'ont aidé. Voilà, j'ai pu être naturalisé et j'ai pu avoir ma carte séjour en 2011. Dès 2011 que j'ai commencé à travailler. Voilà, bon, après les attentats, j'ai reçu aussi ma carte française. Je suis citoyen français maintenant.
Alors, c'est aussi la peur tout le temps d'avoir un moment, enfin, on ne devait pas dormir tranquille, j'imagine, quand on est dans cette situation.
Non, je ne dors pas, surtout le moment que j'avais reçu une QTF. Une QTF, c'est-à-dire quitter le territoire. Parce que quand j'ai fait ma première demande et deuxième demande, j'ai été rejeté. Pour la deuxième demande, j'ai eu une QTF de territoire. Voilà, à ce moment, j'avais peur, j'avais l'angoisse. Au minimum de choses, si j'ai tombé sur la police, c'est sûr que je suis comme aux frontières. Voilà, j'ai peur qu'ils me respectent. Bon, après les cours, je rentre au foyer, je sors plus jusqu'à l'endemain. Bon, j'ai fait attention aussi toutes les grandes gares pour ne pas fréquenter les grandes gares, parce que souvent il y a des policiers qui sont là-bas. J'étais comme ça pendant un an. Pendant un an, parce que quand tu as reçu une QTF de territoire, c'est validé. Pendant un an, si la police te chope, voilà, c'est fini. Bon. J'avais ces peurs-là, mais finalement, j'ai gardé ça et je n'ai pas fait de bêtises. J'étais là, pas santé pendant un an. Voilà.
Quand à un moment où vous travaillez à ce magasin, l'hypercachère, vous êtes employé, ce jour-là, ce 9 janvier 2015, est-ce que vous vous êtes rendu compte tout de suite de la situation?
Non.
Est-ce que vous saviez déjà qu'il y avait eu les attaques de Charlie Hebdo?
Oui, Charlie Hebdo, les jours des attaques de Charlie Hebdo, ces jours-là, moi j'étais à la maison. J'ai entendu par la radio qu'il y avait une attaque à Paris. Charlie Hebdo, en ce moment, moi je ne connaissais même pas Charlie Hebdo. J'ai dit, mais c'est qui Charlie Hebdo? Moi je crois que c'était une personne même. Après, ils ont dit, non, c'est une journaliste qui s'appelle Charlie Hebdo. Bon, les terroristes sont partis attaquer, il y avait plusieurs morts. À ces jours, Paris s'était bouclé, il n'y avait même pas de route pour aller au travail. Parce qu'en ce moment, moi, j'ai commencé l'après-midi. Mon collègue qui est décédé dans le magasin, je l'ai appelé pour dire qu'il y avait une attaque à Paris, mais je serai en retard au travail. Est-ce que ça ne nous empêche pas dès qu'il m'attend un peu, parce que je vais arriver presque un peu 30 minutes en retard. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème, lui-même, il a entendu, il peut m'attendre. Voilà.
Et alors, comment vous êtes rendu compte que la situation était grave à l'hypercachère?
Ben, c'était à l'hypercachère
Au moment de l'attaque.
le moment d'attaque. Moi, quand j'ai entendu que c'était grave, c'était quand je voyais les clients descendre en bas, j'ai dit que c'est vraiment grave. Voilà, ça se produit vraiment dans notre magasin.
Alors, comment on prend la décision d'enfermer des gens? Il y avait une dizaine de personnes, c'est ça?
Oui,
Dont
une
des bébés,
quinzaine
une
de personnes.
quinzaine, dont des bébés, il me semble aussi.
Oui.
Comment on prend cette décision très dure de les enfermer dans une chambre froide déjà et déjà de se sauver pour essayer de donner l'alerte?
Voilà, bon, déjà, quand les terroristes l'ont envoyé, mon collègue venait nous appeler, sinon il va faire des carnages. Bon, on disait, il faut faire quelque chose, parce que les terroristes, ils sont capables de tout. Ils ont armé, ils ont des explosifs. Il a su aussi qu'il y a des gens qui sont en bas, parce qu'il avait envoyé à ma collègue de venir récupérer la clé d'abord. Bon, quand il a su qu'il y a des gens en bas, il nous a braquiné, quoi, il nous a bluffé, parce que moi, je ne pensais même pas qu'il était seul. Parce que moi, je crois que c'était les deux frères Kouassi qui sont venus dans notre magasin. Parce que c'était ces deux frères Kouassi qui ont été beaucoup médiatisés, c'est qu'ils ont attaqué Charlie Hebdo, qu'ils n'ont pas été arrêtés. Mais après, je disais, peut-être que les deux personnes, il y en a une qui va descendre, l'autre, il va rester dans le magasin. J'ai dit, bon, il faut faire quelque chose. Après, moi, j'ai proposé de prendre mon charge, de se saper. Parce que vu qu'il a dit ça, peut-être c'est sûr qu'il va descendre. Bon, je lui ai proposé, ils ont dit non, c'est pas une très bonne idée, prendre mon charge, ça fait du bruit, il peut venir nous attendre à la sortie de mon charge. Moi, j'ai dit, c'est que ça comme solution. Sinon, on prend l'escalier là où ils ont descendu, on pourrait rejoindre d'autres otages dans le magasin. Ils ont dit non, ils préféraient rester en bas. Quand ils ont dit qu'ils préféraient rester en bas, j'ai dit bon, ok, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, l'enfant qui était avec nous, je crois, il a pris un coup en descendant des escaliers, parce qu'avec la foule, il a pris un coup, il pleurait. Se donner la canette pour les faire calmer. Après, j'ai dit, si vous voulez rester là, vous restez là. Ben, j'ai fait rentrer tout le monde dans les chambres de congélateur. C'est les chambres de congélateur. J'ai coupé les moteurs, j'ai éteint la lumière. J'ai dit à tout le monde de mettre le téléphone en mode avion ou la vibration pour ne pas sonner. Bon, à ce moment, moi, j'ai décidé de prendre mon charge. Avant de prendre mon charge, même, ils m'ont dit, oh, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas mettre ta vie en danger. J'ai dit, ben, déjà, notre vie est en danger. Et moi, je vais tenter de sortir par mon charge. Si je tombe sur le taurus, tant pis, mais je vais tenter quelque chose.
À quoi on pense à ce moment-là?
Ben, à ce moment, j'avais peur. Mon cœur se bat, et se bat très fort. Il se bat très fort parce que je ne sais pas si est-ce qu'il va m'attendre ou est-ce qu'il attend le bruit de mon charge. Je ne sais pas. Bon, c'était douloureux. Mais avant de me s'échapper, j'ai appelé d'abord mon ancien magasin que j'avais commencé pour de la Villette. J'ai prévenu mon ami qui m'avait fait rentrer au magasin pour dire qu'il y avait plus d'otages dans notre magasin. C'est un ami, on rigole ensemble, on dit le connaît souvent ensemble, il ne m'a pas pris ça au sérieux. Bon, mon parent républicain qui m'avait parrainé avec l'association RSF, j'ai appelé lui pour dire qu'il y a une prise d'otage dans notre magasin. Il m'a juste demandé où c'est où l'adresse, je donnais l'adresse. Juste en face de c'est lui, là où il habite dans le 19e, il y a la police qui garde les écoles juives. Il est parti en courant pour dire qu'il y avait une prise d'otage pour des Vincennes. À ce moment-là, la police, tout était alerté parce que Charlie Hebdo, il venait d'attaquer. La policière Montrose, il a été assassiné. Tout le monde a été en action. Bon. Quelques minutes, et même pas 5 minutes, 6 minutes, ils sont venus entourer le magasin. Bon, à ce moment, moi, j'étais en bas pour prendre les décisions. Bon, quand je suis monté par le Mont Charles, bon, après la libération de tous les otages, ils ont commencé à parler de mes collègues dans les magasins. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, l'assassinat était où? J'ai dit, moi, j'étais en bas. Finalement, j'ai pris le Mont Charles. Après, ils m'ont fait comprendre qu'en sortant de Montsar, ils ont entendu qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Montsar. Les touristes, ils sont partis en courant pour savoir ce qui s'est passé. Mais moi, j'étais rapide quand je suis arrivé, parce qu'on avait mis aussi une barre à la porte pour bien bloquer en cas de vol. Quand je suis sorti, il m'a poursuivi par derrière. Après, il a vu qu'il y a quelqu'un qui était sorti. Il a demandé à mes collègues de venir bloquer la porte. Ils ont refermé la porte. Ils ont mis des palettes de farine devant et des palettes de lin pour bloquer, pour que les gens ne prennent pas la fuite. C'est à ce moment que je suis que c'était un terroriste, ce n'était pas les frères Kouassi. Après, il me disait que oui, l'assassinat, pourtant, c'était un Malien. Il s'est présenté, il s'appelle Amadou Koulibaly, il a dit pourquoi il s'est revendiqué. Après, ils m'ont donné plus de détails parce que dans les magasins, moi, j'ai aucun détail parce que le moment, moi, c'était aux réserves, quoi.
Et ce qui est intéressant, ou même, je dirais, étonnant, c'est que quand vous êtes avec la police, on vous prend pour un terroriste.
Oui.
Ça devait être dur, ça, quand même.
Très dur, très dur. Parce que quand je suis sorti, moi, mon idée, c'est de prendre. Il y avait un escalier qui descend vers le périph'. Moi, mon idée, c'est de prendre mon char et l'escalier. Parce qu'il y a une station d'essence là-bas qu'ils vendent. Ma directrice, souvent, elle m'envoie d'aller acheter cette cigarette pour elle. Moi, mon idée, c'est de prendre là-bas. Et puis, même si le terrorisme est possible par derrière, même s'il me tire, ça se trouve que je suis déjà bloqué. Je suis déjà calé, quoi. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, la police sont tous arrivés avec les haut-parleurs. Ils m'appellent, arrêtez, vous mettez mes mains à l'air. Bon, moi, j'étais en pleine panique. Bon, ils n'avaient rien à faire. Ils n'avaient rien à faire. Bon, la seule chose que j'ai pu faire, j'ai montré mes mains pour leur montrer qu'ils n'avaient rien. Quand j'étais à nouveau, presque, j'étais à peu près 40 mètres ou 50 mètres, ils m'ont dit de plaquer au sol. Mais ce plaquer au sol, finalement, j'ai marché avec les mains. Bon, quand ils sont arrivés, il y avait des policiers qui sont arrivés, ils m'ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Ils ont sorti les melottes, ils m'ont melotté, ils commencent à me poser la question, vous êtes combien de personnes? Et moi, je crois qu'ils parlent du nombre de clients dans les magasins. J'ai dit, on est presque une vingtaine de personnes. Après, ils disaient, comment ça, 20 touristes? J'ai dit, moi, je suis pas un touriste, je suis un employé de l'hypercasseur. Bon, ils ne m'ont pas pris au sérieux, ils étaient maltraités, hein, parce qu'ils m'ont pris comme un touriste. Ils étaient maltraités, ils m'ont ramené dans la voiture. Il y avait presque une dizaine de policiers qui étaient là. J'entends, oui, on a stoppé un touriste. C'était choquant. Bon, le temps de comprendre pourquoi je me suis arrêté. Et ça a pris quand même 1h30 de m'identifier qui ils étaient. Et après, quand ils ont su qu'ils n'étaient pas un touriste, c'est un employé. Bon,
Et en même temps, vous le comprenez peut-être vu la situation qu'ils devaient prendre leurs précautions.
Oui, j'ai compris. J'ai compris pourquoi je me suis fait arrêter. Parce que ils ont vu les caméras, il y avait un touriste noir qui est rentré dans le magasin. Ils n'avaient pas des informations qu'il y avait un noir qui travaille dans les magasins. Bon, c'est évident, quand je sors le temps de m'identifier, c'est vrai. Ce n'est pas des braquages, hein, c'est des terrorismes. Voilà, ça n'est pas pourquoi. Peut-être qu'ils peuvent même mettre explosif sur moi. Et, voilà, c'est. J'ai compris, je me suis mis à leur place. Bon, quand je me suis mis, j'ai compris que ce qui s'est passé, c'était normal.
Alassane Abatili, quelle est votre vie maintenant? Est-ce que vous avez cicatrisé ou est-ce que vous vous retrouvez toujours à être méfiant dans les endroits où vous allez? Est-ce que il vous arrive d'avoir des crises d'angoisse? Est-ce que vous pensez encore à ces gens?
Ouais, ça m'arrive toujours de penser parce que.
Parce que quand vous me parlez, on sent quand même, il y a encore une émotion qui est profonde, hein, ce
Oui,
qui est logique.
c'est logique. Hein. Mais, de toute façon, quand tu es rescapé des attentats, c'est comme quelqu'un qui a vécu la guerre. Parce que c'était fort, tu étais fait ménager. Et moi, je me suis mis j'ai mis ma vie aussi en danger. Dans les magasins, quand je sortais aussi, je pourrais mourir l'extérieur. Hein, si la police m'avait. Si c'était aux États-Unis, c'était mort, hein, parce que le moment qu'ils se sont ils couraient vers la police, ils pouvaient me battre. Mais tout ça, si je pensais ça me fait toujours mal, parce que, comme j'ai toujours dit, c'est comme une blessure. Hein. Bon, les blessures peuvent se passer, mais les cicatrices, elles restent. Voilà, mais avec le temps, avec les années, ça va aller petit à petit, mais ça m'arrive toujours de penser, surtout quand j'entends l'attaque, ou si j'entends les prises d'otages, ou s'il y a des commémorations qui s'approchent, ça nous fait revivre encore ce qu'on avait vécu.
Et en même temps, ça a un peu changé votre vie, parce que 2015, oui. vous avez donc reçu la naturalisation française, oui. Avec les honneurs et c'est mérité du Premier ministre à l'époque, Manuel Valls, du ministre de la Défense, de l'Intérieur, pardon, Bernard Cazeneuve. Quel est le but de ce livre, Je ne suis pas un héros, au final?
Oui, le but de ces livres, c'était l'idée de mon parent, parce qu'après les attentats, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites sur moi qui n'étaient pas vraies. Il y a certaines personnes qui disaient qu'ils étaient sans papier quand ils étaient à l'IPKCR, ils travaillaient noir, ils n'étaient pas déclarés. Et ce qui s'est passé à l'IPKCR, c'était faux, c'était un complot.
La magie des réseaux sociaux, on va dire. Hein.
Oui, les réseaux sociaux, quoi. Il y avait beaucoup de choses qui étaient dites.
Ça devait faire encore mal, ça, en plus, parce qu'après avoir vécu tout ça, et en plus, on se ramasse
oui,
ce genre de trucs.
Ça, oui, ça m'a fait énormément mal. Ça m'a fait énormément mal. Bon, après, mon parent me disait, c'est mieux d'écrire un livre, de mettre tout ça en place. Réel, ce qui veut des vraies informations, c'est sur le livre. Bon, finalement, j'ai fait de ma biographie, du Mali jusqu'à l'IPKCR, pour parler de tout ce que j'ai vécu à mon arrivée, l'intégration, l'IPKCR, ce que j'ai fait. Voilà, pour mettre tout ça dedans.
Eh ben, je crois qu'il a eu raison et je vous conseille de le lire, ce livre de Lassana Batili, Je ne suis pas un héros. L'histoire d'un garçon malien qui va changer la vie de quelques personnes, une quinzaine de personnes, mais j'ai envie de dire aussi de tous ceux qui ont suivi l'histoire, voilà, dont je fais partie. Et je le dis, voilà, je suis vraiment très ému d'être devant vous, parce que pour moi, même si vous ne le dites pas, vous êtes vraiment un héros.
Merci beaucoup.
Merci Lassana Batili.
Merci à vous.
Et dans un instant dans le MAG, on s'intéresse aux maisons Sport Santé, celle qui vient d'ouvrir à l'hôpital de Cahors.
Et je m'imagine sur un long fleuve tranquille où le temps reste beau, même si tout tombe à l'eau. Je souffle à en faire des bulles, de grandes et minuscules, où traînent les souvenirs lâchés dans le vide. Le matin se lève et tout va recommencer. On dirait le bonheur, les journées nous laissent le temps de les regarder. Trempe ma lassitude dans un bol de ridicule où j'apprécie le geste toujours autant comme le reste. J'entends des bruits dehors où les feuilles se battent encore. C'est peut-être le vent qui frappe à ma porte quand le matin se lève et tout va recommencer. On dirait le bonheur, les journées nous laissent le temps de les regarder. On dirait le bonheur. Se répandent autant qu'elles durent. Le matin se lève et tout va recommencer. On dirait le bonheur, les journées nous laissent le temps de les regarder. On dirait le bonheur. Le matin se lève et tout va recommencer. On dirait le bonheur, les journées nous laissent le temps de les regarder. On dirait le bonheur, les soirées se passent.
CFM Cahors, le MAG.
Partout en France, il y a des maisons sport santé. À quoi ça sert? De quoi s'agit-il surtout? Eh bien, Cahors, il y a maintenant une maison sport santé qui vient simplement d'être inaugurée pour la simple bonne raison qu'avec la crise sanitaire, ça n'a pas pu se faire un an. Mais ça fait déjà ça n'a pas pu se faire avant, et puisque ça fait un an qu'elle existe déjà. Alors, pour nous expliquer à quoi cela sert, nous l'avons demandé au professeur Yves Abitboul, qui est dans la médecine du sport, et c'est lui aussi qui a mis en place cette maison sport et santé à l'hôpital de Cahors.
Eh bien, les maisons sport santé ont été labellisées depuis 2 ans. Le but étant de créer des structures de référence départementales afin de pouvoir centraliser toutes les initiatives dans le cadre du sport santé et la prise en charge des pathologies, soit en prévention tertiaire, c'est-à-dire des pathologies chroniques, ou soit en prévention primaire pour favoriser l'accès à l'activité physique et la prévention de la sédentarité.
Donc l'idée, c'était quoi là-bas ? C'est de se dire, effectivement, comme on le dit depuis très souvent, il faut faire du sport pour la santé, et puis ensuite on donne des moyens ?
Oui, c'était un petit peu ça, effectivement, et surtout de centraliser toutes les initiatives fédérales de différents clubs et de pouvoir véritablement créer une homogénéité entre les différents départements en créant une structure de référence départementale. Pour l'instant, l'unité de médecine du sport est la seule du département et il y a d'autres dossiers qui vont être déposés. Et d'ici un an environ, on aura, on espère, 1 à 2 structures supplémentaires, de telle manière que nous soyons 3 structures dans le département du Lot.
Alors concrètement, comment ça se passe ? Ça veut dire qu'il y a une salle de sport dans la salle, dans l'hôpital de sport, dans l'hôpital de Cahors, pardon ?
Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Notre but n'est pas de faire du sport aux gens, parce qu'il y a des gens dont c'est la profession qui le font remarquablement bien. Notre but, comme les missions des maisons sport santé, c'est d'accueillir le public, de renseigner sur les offres de pratiques d'activité physique et sportive, et d'informer, de conseiller sur les bienfaits de l'activité physique et sportive dans le cas d'une activité physique qui soit adaptée, et d'orienter ensuite de ça vers des professionnels qualifiés, de telle manière à ce que l'activité corresponde à l'état de santé du pratiquant.
Est-ce que j'ai besoin d'attendre d'avoir une lettre du médecin et d'être en mauvaise santé pour venir vous voir ?
Sûrement non, bien évidemment. Le but étant que vous bougiez, que vous pratiquiez une activité physique régulière, modérée et raisonnée. Mais dans le cas d'une consultation médicale dans notre unité, systématiquement, nous envoyons une lettre au médecin traitant pour qu'il puisse justement être au courant de la pratique de son adhérent et de ce patient.
Alors, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'une fois que je suis arrivé, qu'est-ce que vous allez dire à cette personne, par exemple, qui a une pathologie chronique ? Vous allez lui dire, vous allez le diriger vers d'autres structures ? Vous allez lui dire quel sport serait bon pour lui ? Comment ça se passe ? Il y a une consultation ?
Alors, les patients qui ont des pathologies chroniques, la plupart du temps, sont des gens qui ont une affection longue durée, une ALD. On va d'abord effectuer un bilan, après avoir demandé l'avis du médecin traitant. On va prendre l'avis souvent d'un cardiologue et du spécialiste d'organes de la pathologie, principalement dans le cas d'une pathologie cancérologique, des cancérologues, cardiologiques, des cardiologues, rhumatologues, etc. Et une fois qu'on a fait notre bilan, on va lui proposer 20 séances d'activité physique qui vont être protocolisées, adaptées à la personne et sécurisées à l'hôpital, prises en charge par l'assurance maladie. Et c'est là le dispositif innovant, puisqu'il y a très très peu de services hospitaliers qui prennent en charge ceci. Donc nous sommes les seuls en Occitanie, hormis le CHU, à proposer ça. Et au bout de 20 séances, on va refaire un bilan pour sécuriser le parcours du patient, le renvoyer vers le médecin traitant et lui faire une prescription d'activité physique adaptée pour qu'il continue cette activité physique en dehors de l'hôpital, dans le secteur ambulatoire et en ville.
Qu'est-ce que vous dites, professeur, aux personnes qui sont malades, mais qui se disent « le sport, c'est pas pour moi, je suis trop fatigué par le traitement, etc. » Qu'est-ce que vous leur dites ?
Je vais leur dire que l'activité physique, et vous voyez bien que je fais une grande nuance entre l'activité physique et le sport. Le sport, c'est ce qu'on voit à la télévision, on en a plein en ce jour, et on voit de très beaux matchs à la télévision, même s'il y a quelquefois des accidents cardiaques, qui se finissent bien, bien heureusement. On parle d'activité physique et non pas de sport. L'activité physique, c'est un traitement de la maladie. Et principalement, ça a été prouvé dans le dernier rapport de l'Institut national du cancer. L'Institut national du cancer, en 2017, a dit que c'était le principal traitement de la fatigue. Donc quand on est fatigué, il faut bouger, bien évidemment, en dehors des conditions extrêmes, des chaleurs que nous vivons actuellement. Et c'est sûrement comme ça qu'on sera de moins en moins fatigué et qu'on préviendra la sédentarité.
Le sport, un médicament, donc ?
Le sport, un médicament, vous avez tout dit.
Merci beaucoup, professeur.
Je vous en prie.
Professeur Yves Abitboul de l'hôpital de Cahors, en ce qui concerne la maison sport-santé que vous pouvez contacter tout simplement à l'hôpital de Cahors. Tout à l'heure, nous étions avec Lassana Batili à la librairie Calligram. Et bien, encore une rencontre qui est prévue ce samedi. C'est à 10h30 jusqu'à 13h, où cette fois, ils vont le recevoir Jean-Pierre Siméon. Jean-Pierre Siméon, c'est le directeur de la prestigieuse collection Poésie des éditions Gallimard. Ancien directeur artistique du Printemps des Poètes, il est un fervent défenseur de la poésie. Il est lui-même d'ailleurs poète lyrique. Et il sera ravi d'échanger avec vous une avant-première de la de la grande librairie, je mélange un peu, parce qu'effectivement, le 30 juin, il sera dans le magazine de France 5, la grande librairie. En attendant, vous pourrez rencontrer dans ce débat animé par la librairie Calligramme à la librairie Calligramme de Cahors, ce samedi 26 juin, de 10h30 à 13h. C'est la fin de ce magazine, à réécouter tout à l'heure en rediffusion à 17h et à 21h30, et puis également en podcast sur cfmradio.fr. Dans un instant, le journal.